à nous. Cette semaine, France Culture rend hommage au philosophe Michel Serres, récemment disparu. En 2002, il s'entretenait avec Jean-Paul Dolé. Aujourd'hui, l'hominescence.
Bonjour Michel Serres.
Bonjour. Hier,
vous nous avez parlé de la philosophie, comment vous y étiez arrivé, comment vous la concevez, et aussi nous en étions arrivés aussi à ce problème de notre temps, de la même façon que la génération qui a les commandes en ce moment n'a pas eu l'expérience ni du monde paysan, ni de la guerre. Elle est aussi, d'après cette scission qu'il y a entre les scientifiques et les littéraires. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous parlions, en rapport avec votre dernier livre, « L'hominiscence », de l'analyse que vous faites de l'état du monde en ce moment, qui me paraît extrêmement ambivalent, parce que vous êtes à la fois émerveillé du monde dans lequel nous sommes, parce qu'avec toute cette mutation extraordinaire qui nous donne des possibilités incroyables, qui nous donne la plus grande possibilité, c'est que c'est possible, justement, d'un certain point de vue, c'est ça la chose extraordinaire, et en même temps, que c'est assez un monde qui terrifie. Bon, pour résumer votre analyse, vos thèses principales, il me semble qu'elles s'articulent selon trois grandes énonciations. Premièrement, la Terre, issue des sciences dures, rentre dans l'histoire, ce qui a pour conséquence que notre temps est celui de l'omnipotente impuissance, comme vous dites aussi cette expression. Et puis en même temps aussi, l'envers de ça, et l'envers extraordinairement positif, c'est qu'il y a des nouvelles possibilités technologiques qui pourraient, dites-vous, pallier justement à cette violence qui jusqu'alors était le seul ciment pour faire un ensemble. Alors si vous voulez bien, on va reprendre ces trois choses-là.
D'abord, justifier mon titre.
Voilà.
Hominescence, c'est un néologisme que j'ai inventé et qui vous ne trouverez pas dans les dictionnaires.
Non,
et que j'ai inventé pour la raison suivante. Il existe dans notre langue une série de mots comme adolescence, luminescence, phosphorescence, arborescence. Bref, il y en a une série, il y en a peut-être une vingtaine. Adolescence veut dire l'état de celui qui est en train de devenir adulte. Arborescence veut dire le petit arbuste qui est en train de devenir un arbre, et ainsi de suite. Ce sont des mots que les linguistes appellent incoatifs, c'est-à-dire qui désignent un petit commencement, un commencement d'évolution ou une évolution mineure. Et j'ai choisi ce terme « hominescence » pour la raison suivante, c'est que je crois profondément que dans les 50 dernières années, puisqu'il s'agit de l'état du monde, selon votre expression, Jean-Paul Dolé, c'est une bonne expression, il s'agit, je le crois, d'une sorte d'hominisation. Mais je n'ai pas utilisé le mot « hominisation » parce qu'il est trop lourd. Hominisation, ça, c'est pour nos paléo-anthropologues, c'est pour Yves Coppens. C'est-à-dire quand Lucie s'est mise debout, ça dure un million d'années, ou que nous avons perdu notre pelage ou notre toison, ça c'est des moments lourds d'hominisation. Moi je ne parle pas de ça, je parle de ce qui, à mon sens, dans les 50 dernières années, a changé très profondément la condition humaine. Alors quand je dis changer, je veux dire deux choses. La première ressemble un peu à la théorie des plaques. Il y a des volcans qui font des éruptions, il y a les tremblements de terre, il y a des failles, et tout ça, c'est des phénomènes violents et superficiels. Mais aujourd'hui, la géologie sait descendre plusieurs kilomètres de profondeur pour mettre au point et mettre en évidence des plaques qui avancent lentement et qui sont la cause de ces transformations. J'ai essayé de descendre assez profond pour trouver la cause des transformations de notre monde. C'était ça mon idée. Alors, qu'est-ce qui a changé? Si vous voulez, c'est l'image spatiale. Mais dans le temps, je trouve que ce qui a changé, ce sont des segments de temps extraordinairement longs. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la transformation de l'agriculture qui fait que, au début du siècle, nous étions 70% de paysans et qu'aujourd'hui, nous sommes 2,3%, de sorte que il y a à peine quelques semaines, je dînais avec le président directeur général d'une compagnie européenne de lait condensé, qui a appris de ma bouche que les vaches avaient du lait quand elles avaient des veaux. Il l'ignorait.
Donc vous voyez que vous
l'inexpérience paysanne est aujourd'hui magnifique. Bon. Donc cette culture paysanne qui était le socle de notre expérience et le modèle de l'activité humaine disparaît en très grande partie. Et ça, c'est un phénomène d'amplitude extraordinairement longue. D'autre part, je parle de transformation du corps. Les transformations du corps, je les résumerai en un mot. Dès le début du XIXe siècle, l'espérance de vie en France était autour de 25 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie de nos compagnes, femmes, est de 81 à 83 ans. Ce n'est pas la même vie, ce n'est pas la même personne. J'ai même calculé, pour donner un exemple assez drôle, qu'aujourd'hui, où plus de 50% des ménages divorcent, c'est pourtant aujourd'hui que les hommes et les femmes mariés restent le plus longtemps ensemble. Car lorsqu'on se jurait une fidélité éternelle à 23 ans et qu'on a 25 ans d'espérance de vie, on se la jurait pour 3 ans. Aujourd'hui, on se la jure pour 60 ans, ce qui est tout à fait différent. Est-ce que vous croyez qu'un héros qui donnait sa vie pour sa patrie à 25 ans, ne donner que 2 ans de vie, aujourd'hui, y a-t-il un héros qui donnerait 60 ans de sa vie à 25 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, le rapport au corps...
Sans parler des histoires de quatrième âge, etc.
Et oui,
etc.
Et de parler de rapport à la douleur.
Le rapport à la douleur.
Le rapport à la douleur. Un roi comme Louis XIV a hurlé de souffrance tous les jours, au milieu des meilleurs médecins de son royaume. Aujourd'hui, un médecin praticien de campagne ou de quartier peut recevoir dans son cabinet un vieillard de 75 ans qui n'est encore pas eu, qui n'a encore pas eu l'expérience de la douleur. Ça arrive. Ce n'est pas, je ne veux pas dire qu'on ne souffre plus. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que statistiquement, l'expérience de la douleur a baissé. Nous avons à l'Académie une collection de costumes de l'Académie datant de 1820. Pas une fillette de 10 ans n'y rentrerait.
Oui.
C'est-à-dire la taille des soldats de Napoléon que Victor Hugo appelait des gens était de 1,55 m.
Oui, oui.
Vous voyez, nous, aujourd'hui, les conscrits, on te met 80 de moyenne,
ouais,
etc. Donc le corps se transforme comme jamais il ne s'est transformé depuis le début de l'histoire. Alors, la mort, nous en avons parlé. L'agriculture, nous en avons parlé. Le corps, nous en parlons.
Et encore, le corps prothèse, parce que ça, c'est
le corps prothèse, bien entendu, tout à fait.
Assez...
Oui, oui, les opérations chirurgicales,
voilà.
Si vous voulez,
les
greffes.
Gens qui vivent avec un cœur qui
avec
n'est pas
un
le...
pacemaker.
Voilà,
ou avec un corps
qui n'est pas le leur.
Voilà, et ainsi de suite.
Voilà.
Donc là, il y a une transformation. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est pire, c'est comme d'habitude pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. Et puis, il y a aussi cette transformation majeure qui me paraît être celle des nouvelles technologies. La première, c'est le rapport à la mort. La deuxième, c'est le rapport au monde, avec l'agriculture. La troisième, c'est le rapport au corps, c'est-à-dire à notre vie. Et là-dessus, j'ai oublié de parler des femmes. La libération des femmes, honte à notre pays qui n'a donné le vote aux femmes qu'en 1947, vous voyez. Mais depuis, la libération des femmes est aussi bimillénaire, vous voyez, qui est aussi quelque chose qui coupe l'histoire longue, vous voyez. Bon. Revenons aux nouvelles technologies. D'une certaine manière, je crois que les nouvelles technologies telles que nous les recevons aujourd'hui, tout compris, hein, tout ce qu'on comprend sous ce vocable-là, donnent une révolution qui est de l'ordre de celle qui est arrivée lorsqu'on est passé du stade oral au stade écrit, ou de l'ordre de celle qui s'est passée quand on est passé du stade écrit au stade imprimé. Et aujourd'hui, nous passons d'une certaine manière du stade imprimé au stade informatique. Or, lorsqu'on est passé du stade écrit au stade imprimé, les transformations ont été considérables. C'est-à-dire, c'est la naissance de nouveaux États, de grandes villes, le code d'Amourabi et le code de Moïse, c'est-à-dire d'un nouveau droit, l'impression de la monnaie avec un nouveau commerce, l'apparition des sciences géométriques en Grèce, filles de l'écriture, et pour finir, l'arrivée de monothéisme avec les prophètes écrivains d'Israël. Voyez, ouais. Donc, transformation complète de la société et du cognitif. Le même profil peut être dit pour la Renaissance, avec la réforme, les grandes banques vénitiennes, la Renaissance et ainsi de suite, vous voyez, et l'arrivée des sciences expérimentales. le même profil de transformation est aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans un tremblement de terre dans la relation à autrui, dans l'ensemble des techniques qui permettent de stocker, d'émettre, de recevoir et de transmettre l'information, qui est au moins aussi importante que ces deux-là. Et du coup, on voit se transformer autour de nous autant de choses que pour le corps, que pour la mort ou que pour la nature, vous voyez.
Et pour ça, oui, mais ça, c'est la vision, la bonne vision.
Oui, bon. C'est la bonne vision.
Ça, c'est, comme on disait avant, c'est le progrès.
Non, c'est toujours pour le meilleur et pour le pire. Car, si vous voulez, pour ce qui concerne les nouvelles technologies, il est tout à fait clair que ce soit en présentiel, c'est-à-dire en parlant à des gens qui se trouvent là, présents réellement, et les techniques virtuelles telles que nous les avons, c'est toujours pour le meilleur et pour le pire. Je vais vous donner un exemple. Nous prenons la télévision. La télévision est certainement un des plus beaux outils d'acculturation des hommes qu'on peut imaginer, et même de pédagogie. Or, un adolescent de 12 à 13 ans aujourd'hui a vu entre 15 et 20 000 meurtres à la télévision. Nous ne pouvons pas savoir quels sont les résultats d'une expérience de ce type. Donc là, la chaîne en question est la meilleure, mais aussi la pire des choses. Mais la langue, depuis Ésope, était déjà la meilleure et la pire des choses. Une autoroute, si elle est la meilleure, tout le monde va la prendre. Si tout le monde la prend, elle se bouche et c'est la pire. Donc tout canal de communication est le meilleur et le pire. Vous voyez, tout canal de communication est soumis à cette double loi. Mmh. Et par conséquent, je ne peux pas dire si c'est un progrès ou une régression, c'est toujours ma philosophie du temps que j'exposais hier.
Oui, c'est ça.
Ça percole, c'est-à-dire ici c'est excellent, là c'est un peu moins bien, là il y a des... Ça dépend de notre volonté et de notre volonté politique.
Oui, cela dit quand même, vous êtes quelqu'un qui, bon, Hermès, ça veut dire quelque chose pour vous. Vous avez, oui. Ça a oui. Toujours, disons que vous avez valorisé quand même la communication.
Oui, c'est-à-dire...
Vous lui faites supporter quelque chose qui est...
Depuis très longtemps.
Depuis très longtemps.
C'est-à-dire, c'est un des fils les plus permanents de mon travail, puisque dès le début, j'ai travaillé sur Leibniz, qui est le premier philosophe de la communication. Je vais vous faire un aveu, Jean-Paul Dolé. Bon, quel est le titre de mon premier article de philosophie lorsque j'avais 26 ans ?
Ah, je ne sais pas.
La notion de réseau.
Ah, ben ça, écoutez, alors là, vous avez anticipé, là.
J'ai anticipé. Oui. La notion de réseau, c'est-à-dire que pour moi, le réseau était une forme de pensée, de raisonnement et de communication majeure, vous voyez. Et lorsque j'ai fait ma thèse sur Leibniz, j'ai dit que la philosophie de Leibniz était un réseau, et je l'ai découpé selon les pôles, les chemins, les étoiles, etc., vous voyez. Donc, et ensuite, j'ai fait 5 volumes sur Hermès, puis j'ai fait un livre sur le parasite, c'est-à-dire les obstacles à la communication, un livre sur les anges, c'est-à-dire sur les messages, les messages et les messageries vues du point de vue traditionnel de l'angélologie, et ainsi de suite. Je n'ai jamais cessé de parler de la communication toute ma vie. Pourquoi ? Parce que ça me parut être une des nouveautés majeures de notre temps.
Oui, mais vous savez bien que là-dessus, il y a, bon, ce mot, il est un peu
galvaudé aujourd'hui.
Galvaudé.
Hein, il faut que je vous dise aussi, vous avez eu l'amabilité dans la première émission de me faire parler un petit peu... quoique j'ai toujours de la pudeur d'en parler, de mon enfance paysanne. Puis ensuite, vous m'avez fait parler de mon enfance pendant la guerre.
Voilà, et la troisième
une des choses dont je me souviens avec le plus d'acuité dans la campagne où j'habitais et où la guerre sévissait autour de nous, on entendait les sirènes des bombardements, etc., bien sûr, c'était que l'espace dans lequel nous vivions était un espace... lacunaire, un espace sans communication. Nous étions livrés, pieds et poings liés, aux rumeurs. La radio marchait, mais elle était tout le temps pleine de parasites. Vous savez, Radio Londres, on l'entendait très mal. Il était tout le temps brouillé par des machines. Vous voyez. Donc, l'avancée allemande, on ne connaissait pas, on ne savait pas où c'était, on ne savait pas ce que disaient les prisonniers. Donc, on était dans un espace absolument hétérogène, absolument hétéroclite. Les communications ne passaient nulle part. Et tout d'un coup,
c'était l'emprisonnement pour vous, ça, cette chose-là ça,
non,
ça,
c'était, non, c'était une expérience multimillénaire, Jean-Paul Dolé. Oui. C'est-à-dire, l'espace... où il n'y a pas de communication était un espace ordinaire. C'est-à-dire, c'était l'espace dans lequel l'humanité avait toujours vécu. Nous n'avions pas de communication entre nous. Alors, l'histoire des communications est ancienne. C'est vrai qu'Hannibal, quand il envahit Rome, a des nouvelles de Carthage avec des feux allumés sur la côte tunisienne, à Pantellaria, en Sicile, etc. Oui, il y a déjà des techniques de communication, mais elles sont, un, très rares, et deux, réservées
aux puissants,
aux grandes forces et voilà, aux grandes puissances, bien entendu. Mais le paysan gascon des années 1935 à 39 n'était pas loin du paysan néolithique à cet égard. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de communication. L'espace n'était pas un espace où il y avait des flux de communication. Et soudain, je m'en souviens comme si j'y étais, n'est-ce pas, dans les années 50, 47, 50, 55, tout d'un coup, les flux de communication sont là en permanence. C'est-à-dire, soudain, le téléphone se généralise, puis la télé se généralise, puis on commence à circuler. C'est-à-dire que la voiture vraiment permet de traverser les frontières, et tout d'un coup, les nouvelles abondent et surabondent. C'est pourquoi, dès les années 59-60, je disais à mon professeur de philosophie, ce n'est plus le problème de la production qui compte aujourd'hui, c'est le problème de la communication. Parce que la communication, transformer le commerce, transformer la culture, transformer dès les années 50, vous voyez, la révolution était là. Évidemment, elle n'a jamais cessé de croître jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un des grands phénomènes, non seulement contemporains, mais oui, ça c'est du nouveau. C'est-à-dire, les espaces de communication étaient rarissimes. Voilà. Mais c'est là, pourquoi je m'en suis occupé vraiment beaucoup.
Oui, mais vous étiez bien d'accord, et vous êtes toujours bien d'accord, que vous communiquez quelque chose, des flux de quelque chose. Le problème maintenant, c'est qu'on a l'impression, enfin bon, une certaine...
C'est toujours pour le meilleur et pour le pire.
Parce que communication, c'est devenu la chose elle-même.
Voilà, et oui, je sais, mais si vous voulez, c'est une vieille histoire. J'ai beaucoup étudié ça, forcément, par la suite, et j'ai eu à faire des cours sur l'histoire de la communication. Savez-vous, par exemple, qu'à l'invention du téléphone, à la fin du siècle dernier, la France, l'Allemagne et l'Angleterre se sont mises d'accord pour ne pas utiliser ou utiliser le moins possible l'outil téléphone. Savez-vous pourquoi ?
Non.
Eh bien, parce que les décideurs, qu'ils soient politiques ou économiques ou banquiers, avaient une terreur folle que leurs femmes chez eux téléphonent à leurs amants.
C'était
extraordinaire,
femme,
mais bien sûr. Mais par conséquent, le téléphone s'est peu répandu pour des raisons de ce genre.
Déjà,
les décideurs considéraient que la communication était à la fois bonne pour eux et mauvaise pour les autres.
Oui, oui.
Vous voyez ? Donc, cette espèce d'équilibre entre... un optimisme raisonnable et un pessimisme réaliste a toujours été là du point de vue de la communication.
Thank you.
Michel Serres, vous dites « Notre temps est celui de l'omnipotente impuissance ».
Ah oui. Alors là, oui, je veux bien parler de ça,
alors,
parce que c'est très intéressant.
Ça, c'est très important,
Vous vous rappelez la distinction des stoïciens sur, qui séparait très, très précisément les choses qui dépendaient de nous et
voilà.
Les choses qui ne dépendaient
alors,
pas de nous. Qu'est-ce qui dépend de moi ?
Il
dépend de moi que je sorte maintenant, que je fasse tel et tel acte, etc. Il ne dépend pas de moi que je meure, que je sois malade ou que j'ai un accident. Donc la sagesse consistait à séparer les deux. Puis arrive le cartésianisme qui nous dit il faut être maître et possesseur de la nature, il faut accélérer le progrès technique, ce qui veut dire que de plus en plus de choses dépendent de nous. Donc, tout d'un coup, la classe des choses qui dépendent de nous va grossir et la classe des choses qui ne dépendent pas de nous va diminuer. Par exemple, on ne pouvait pas imaginer, il y a à peine 100 ans, que l'heure de notre mort dépendrait de nous. Or, en grande partie, elle en dépend aujourd'hui. C'est-à-dire, il est vrai que si vous abusez de tabac ou d'alcool, vous précipitez d'une certaine manière la probabilité du cancer, et ainsi de suite. Bon. Donc il y a aujourd'hui, grâce à des actions collectives, scientifiques et personnelles, une sorte de diminution des choses qui ne dépendent pas de nous. Bien. Et c'est là qu'intervient ce dont nous avons parlé la dernière fois concernant le local et le global. Tant que les choses qui dépendent de nous étaient des choses locales, c'est-à-dire frappées sur un clou, ou avec la charrue, labourer un sillon, ou avec des bêtes, les faire paître et les traire. Il n'y avait qu'une localité bien définie dans l'espace qui dépendait de moi, ou qui dépendait de mon voisin. Dès lors que on commence à avoir des techniques concernant la chaleur, savez-vous par exemple que lorsqu'on fait une carotte de glace dans le Groenland, vous savez qu'on a des tranches qui donnent l'état de l'atmosphère année par année. Et on peut analyser l'état de l'atmosphère dans ces années-là. Eh bien, dès l'invention de l'âge du bronze, on a des effluents de bronze qui tombent dans le Groenland. Donc, dès qu'on commence à faire la petite industrie de la chaleur, on a un effet global.
Ah oui.
Et par conséquent, aujourd'hui, voilà, nous avons des effets globaux et des objets que j'ai appelés des objets mondes.
Oui.
Qu'est-ce qu'un objet monde ? C'est un objet dont une dimension a une des dimensions du monde. Par exemple, la toile, spatialement, c'est un objet monde. Une bombe atomique ou une usine nucléaire, énergétiquement, est un objet monde. Et ainsi, un résidu nucléaire, du point de vue du temps, est un objet monde. Or, ces objets mondes, désormais, appartiennent à nos techniques. Et ces choses-là dépendent de nous, d'accord ? Puisque c'est des techniques que nous avons inventées, que nous manipulons. Mais ces choses-là ont une influence sur le monde, telle que, comme nous habitons ce monde, ces choses-là, par derrière nous, influent sur nous de sorte que nous dépendons d'elles. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons passé un quatrième état où nous dépendons des choses qui dépendent de nous. C'est-à-dire, nous fabriquons des choses dont les conséquences rétroagissent sur nous par une sorte d'effet négatif.
Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à penser, j'ai l'impression, parce que c'est pas du tout, vous êtes pas dans un ressentiment par rapport à la technique, la France et les robots, Bernanos, etc. Et en même temps, vous êtes pas non plus dans les fameux effets pervers, on fait quelque chose, on sait pas ce que. Et voilà, ce paradoxe absolument incroyable. Comme vous venez de dire, ça c'est vraiment extrêmement difficile.
C'est extrêmement difficile à penser, d'abord parce que c'est global, et ensuite parce que la causalité est circulaire.
Oui.
C'est-à-dire, nous dépendons de choses qui dépendent de nous, ce qui est paradoxal.
Oui, oui.
D'où ma formule est la suivante. Notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de maîtriser les choses, c'est de maîtriser notre maîtrise. C'est-à-dire, c'est cette espèce de circularité qui est notre objet de maîtrise. Vous voyez, c'est ça qui est le plus intéressant.
Paradoxalement, c'est ce problème qui est un problème technique, épistémologique, scientifique, c'était quand même aussi la sagesse.
Devient un problème de sagesse,
et
un problème politique en même temps.
Voilà. Absolument. Donc là, il y a une espèce de nécessité, encore une fois, on
de
voit
nouvelle,
que vous pensez dans la nécessité. C'est qu'à un moment donné...
À ce moment-là, on a un état nouveau des choses dont il faut prendre compte de façon la plus maîtrisée possible. Mais... Et c'est surtout sur ce point que je voudrais maintenant insister. c'est que toute l'analyse que je viens de faire, de cette espèce de mouvement d'ominescence globale et vraiment très profond que nous venons de subir, nous, disons, depuis 50 ans, un demi-siècle, et qui est vraiment très décisif dans l'histoire et l'évolution humaine, voici que, et c'est ça la chose la plus tragique à mon avis, ce mouvement a concerné et n'a concerné qu'une petite portion de l'espace et qu'une petite proportion de l'espèce humaine, c'est-à-dire l'Occident. Pendant que cette évolution se faisait en laissant tomber de plus en plus une grande partie de la population humaine et des gens qui habitaient notre monde. Du coup, la tension devient de plus en plus puissante entre les pays dits d'Occident ou développés et les pays sous-développés. Et je dis dans mon livre au moins 10, 20, 30 fois, nous le paierons un jour très cher. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre enregistrée en 2002 entre Jean-Paul Dolé et Michel Serres, récemment disparu. À voix nue, réalisation Anne-Pérez Franchini, Assia Khalid, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.